nos lieux enchantés, une histoire mariant causerie, chansons et patrimoine.
Réalisé par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Mornantais.
Et elle a eu une vision qu'il fallait aller à Sainte-Croix-en-Jarret, et c'est là qu'elle a fondé la Chartreuse de Sainte-Croix. Disons que comme nous qui habitons tout le temps, on fait pas trop attention au paysage, mais comme je dis, dès qu'on regarde, il y a toujours quelque chose à voir.
Parce que c'est une toute petite commune, ça fait 42 hectares, c'est-à-dire une ferme.
À cette époque-là, pousser quelqu'un dans un puits, c'était pas...
C'était pas grave.
C'était pas grave, enfin pour moi c'était pas grave. En 1590, quand il y a eu l'invasion, donc tous les gens ont été massacrés, et le sang recoulait jusqu'à Saint-Didier, d'où le nom Chandelan.
Rivry a été une seigneurie, et puis Rivry a été la propriété de gens, de bourgeois, d'échevins.
Les rampenaux, qui veut dire bagarreur et vive la joie.
À deux pas de Lyon, le pays mornantais, un plateau, des coteaux, un pays dans le pays.
Je suis Romain Lateltin, enfant du pays.
Et moi, je suis Théophile Hardy, enfant fraîchement adopté. Nous avons une mission. Explorer le pays mornantais, sa culture, son patrimoine, ses visages, ses paysages, pour trouver ce qui relie ces 30 000 âmes.
Nous allons causer avec les gardiens des histoires et légendes, ayant traversé le territoire et les années. Nous allons sillonner le pays pour capter sa vibration et tenter d'écrire des chansons qui racontent son histoire en musique.
Notre cap, le festival itinérant Nos lieux enchantés, qui invitera des artistes à chanter leurs propres chansons et celles du lieu, décors de leur spectacle. Pour vivre notre pays mornantais avec nos cinq sens.
Pour explorer ses couplets, traverser ses ponts et entonner ses refrains en chœur.
Pour en chanter nos lieux. Bonjour. Lorsque l'on voyage sur la route départementale 42 de Lyon à Saint-Étienne, sur la droite, une chaîne de moyennes montagnes boisées barre l'horizon à l'ouest. Ce sont les monts du Lyonnais qui étirent vers le sud le chaînon des monts d'Iseron. À l'avant de cette chaîne, au centre d'un amphithéâtre formé par Chantelois et le Châtelard, un éperon rocheux s'élève comme une figure de proue portant sur ses flancs un village dont les maisons, pressées sous leurs toits de tuiles rondes, semblent monter à l'assaut de la couronne de grands arbres qui dominent le tout. C'est Rivry. Voilà l'introduction d'un très joli texte écrit dans les années 1970 par Jean Brouillet. L'amour de son village est quelque chose qui se transmet, et c'est tout naturellement avec son fils André et avec Franck Vernion que nous allons nous plonger dans la riche histoire de ce magnifique petit village médiéval. Franck, André, bonjour.
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 Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous dire qui vous êtes et ce qui vous relie tant à Rivry ? André ?
Alors, mes ancêtres sont arrivés à Rivry en venant d'Angoulême en 1645. Et depuis cette date, les Brouillets ont toujours habité à Rivry. Donc c'est...
Naturellement que tu es relié à ce village.
Alors donc, j'aime bien mon village. Mmh. Et donc, maintenant que je suis à la retraite, je fais des recherches sur l'histoire de Rivry et l'histoire de la famille Brouillet. Et j'ai pas mal d'archives qui me disent ce qu'il en était.
Donc tu fais à la fois ton arbre généalogique en même temps que celui du... Oui. En le reliant à l'histoire du village.
Voilà, oui. Et là-dessus, je continue la maquette du village qui avait été commencée. Alors, c'est une maquette qui représente Rivry au XIVe siècle.
OK.
Voilà. On pourrait y avoir...
On va en parler dans ce podcast plus en détail, mais on va faire connaissance, maintenant qu'on a fait connaissance un petit peu avec toi, et on va continuer à faire connaissance tout au long de cette causerie, on va faire connaissance avec le village également. Allez, Franck, à toi maintenant. Dis-nous.
Alors donc, moi je ne suis pas originaire du plateau mornantais, je suis ardéchois. Néanmoins, j'habite, comme je t'ai dit, depuis 50 ans sur le plateau mornantais. D'abord à Talhuyer, où je suis resté 15 ans, et puis ben, depuis 35 ans sur Rivray. Voilà. Je suis bien content dans ce village. J'ai fait un peu comme André, quelques recherches historiques. On a édité, tout le monde le sait, ce bouquin de Vacher qui est Rivray et le canton de Mornant. On l'a réédité, celui-ci. Il date de Vacher, c'est-à-dire il était maire à partir de 1850 jusqu'à 1910,
je crois. Il est resté 43 ans maire.
Ouais, ouais. Ouais. Et puis on a fait, il y a maintenant plus de 10 ans, hein, Rivray la vie au XXe siècle, qui a été fait à l'origine par l'ancien maire, enfin un ancien maire, qui était Pierre Vernet. Vernet, hein,
oui, c'était
Pierre Vernet. Voilà. Où tout le village a participé.
D'accord, donc c'était un travail participatif, coopératif. C'est voilà. Chouette, ça aussi, on aime beaucoup ça, nous, dans des histoires en musique. Merci pour cette présentation, Romain.
Alors, moi, j'aime bien savoir aussi, qu'est-ce que vous faisiez comme métier ?
Ah, alors moi, j'étais agriculteur.
Donc André, tu étais agriculteur ici sur place ?
Ici sur place, oui. Je faisais un élevage de moutons.
D'accord.
Qui a été repris par mon fils.
Voilà. Donc on continue encore la transmission chez les Brouillet.
Moi, j'étais médecin, je n'ai rien élevé et je n'ai rien transmis à mon fils. J'étais médecin au départ rhumatologue, puis très rapidement comme médecin conseil à la Sécurité sociale à Lyon.
D'accord.
Voilà. J'ai pris ma retraite à l'âge de 62 plus 1.
Voilà. Il faut peut-être que je précise quelque chose. Mes ancêtres, justement, quand ils sont arrivés à Rivray, ils étaient maîtres chirurgiens. Il a été maître chirurgien pendant 43 ans. Mais ses enfants n'ont pas voulu continuer dans la médecine. Donc, il y en a plusieurs. Donc, il y en a un qui est parti en vigneron, un autre cordonnier. Et puis les autres, je les ai dans les archives, mais je ne sais plus. Il y a eu un peu de tout. Jusqu'à la fin, il y en a un qui est resté donc, à Rivray et qui a été agriculteur.
Alors maintenant, on va parler un peu de Rivray. Est-ce que vous pouvez nous donner les petites informations, on va dire, essentielles, c'est-à-dire d'où vient le nom du village ? Quel est le nom de ses habitants ? Est-ce qu'il y a un sobriquet ? Combien y a-t-il d'habitants ?
Toutes les communes du coin ont des sobriquets. Hein,
on sait.
Donc, vous connaissez celui de Rivray, non ?
Eh bien, c'est à vous de nous expliquer.
Bon, alors, c'est les Rampognaux.
Les Rampognaux, qui veut dire bagarreur et vive la joie. Voilà, c'est
oui.
Geste version.
Donc ça, c'est le nom du sobriquet, mais comment on nomme les habitants de Rivray ?
Eh bien, on n'a pas de nom.
Non.
C'est le sobriquet, le
nom. En fin de compte, c'est le sobriquet qui est employé. Quoi.
Pourquoi ce nom ?
J'ai les versions orales, quoi, témoignage oral de mes parents, tantes, et ainsi de suite. Bon, c'est vrai que dans le temps, ils étaient bagarreurs. Et puis, ils aimaient faire la fête. Mais bon, je pense que c'est remonté comme ça.
Donc, ça résume finalement parfaitement le nom.
Ah, mais oui,
c'est
tout à fait.
Tout simplement, pour
tout
cette
simplement,
raison.
Je pense que c'est ça, hein.
Okay.
Parce que j'ai toujours entendu dire mon père, mes tantes, que c'était la fête à Rivray fréquemment, et puis ça se battait. Parce que quand il y avait la fête, ben, ça se terminait toujours par quelques coups de poing.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi d'où vient le nom du village Rivray ? Nous, on a lu des choses. Mais...
J'avais, mais je ne peux pas vous le dire.
Alors, on peut compléter un peu. Disons que nous, ce qu'on a trouvé, c'est Riviria,
voilà.
Riviria
oui.
Qui viendrait du ruisseau et Rip, qui voilà. Veut dire un haut lieu escarpé, voilà. Ce qui est un peu le cas.
Le ruisseau, ça. En parlant du Besançon.
Voilà, du Besançon.
Oui, c'est oui, donc c'est ce que j'ai voilà. Dans les archives.
Le Besançon qu'on a souvent évoqué, notamment avec Saint-Didier, par exemple, et même Saint-Maurice-sur-Dargoire aussi, on a beaucoup parlé du Besançon. Tout à fait. Et combien y a-t-il d'habitants aujourd'hui à Rivray ?
320. Il y en a un autre qui est né depuis, tu vois ?
Peut-être 21 ou 320. 19, je ne sais pas.
C'est-à-dire que le nombre d'habitants est ascendant.
Oui.
À une époque, le village était bien plus dépeuplé.
Alors, c'était descendu à 179 habitants.
Voilà.
Et encore avant, ce n'était pas des habitants, mais c'était des feux qu'ils appelaient. Et c'était 75 feux. C'est-à-dire qu'un feu, c'était où il y avait une cheminée.
Ah.
Alors, il y avait une famille.
Un foyer, quoi.
Un foyer.
Un feu fait habituellement 4 habitants en moyenne.
Qu'est-ce qui fait que les gens repeuplent Rivry ?
Ce qu'il y a, c'est que dans les années 60, on devait être en habitant permanent 160 à peu près. Et c'était tout ce qu'on appelait des villégiateurs. C'est-à-dire que c'est des gens de la ville qui venaient en vacances l'été. Alors l'hiver, tout était fermé. On pouvait se compter, tout le monde se connaissait bien, quoi. Et puis, petit à petit, les villégiateurs, donc les enfants, sont venus, seront installés en permanence. Donc maintenant, c'est pour ça que Rivry, il n'y a pratiquement plus de maisons vacantes. Quoi.
D'accord.
Et à Rivry, il n'y a plus de possibilité de construire, pour l'instant. Mais ça va durer un bout de temps, cette impossibilité de construire. Parce qu'on a quand même, on a une AVAP, c'est une AVAP ?
Oui, je
crois. Ouais. Ouais, enfin, un système qui nous permet de ne pas avoir trop de monde à Rivry. Parce que c'est une toute petite commune, ça fait 42 hectares, c'est-à-dire une ferme.
Oui, une ferme.
C'est comme une ferme.
Et ce qu'il faut dire, c'est que Rivry est la plus petite commune, en tout cas de superficie du Rhône.
Et de la région.
Mais on est en concurrence avec Sainte-Foy-l'Argentière.
Oui, mais il y a beaucoup plus d'habitants pour le coup.
Oui, mais c'est à peu près la même surface.
D'accord. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi que voilà, c'est pas très extensible. Et du coup, c'est vrai que moi, gamin, voilà, Rivry, c'était vraiment juste un village, quoi.
Oui, tout de suite, on est sur la commune voisine, quoi. Ouais. Vous prenez la route de Saint-André, en haut du parking, c'est Sainte-Catherine. Vous descendez chez moi, vous connaissez peut-être pas, mais enfin bon, on habite à Rivry, la ferme est à Saint-Didier.
Et puis après Saint-Sorlin.
Et s'il y avait des vignerons à Rivry, les vignes n'étaient donc pas à Rivry, mais elles étaient sur Saint-Didier.
Toutes sur la commune de Saint-Didier.
D'accord. Et on a cherché un peu l'histoire du blason du village. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce blason ?
C'est écrit Maud Bénéon, le blason qu'on a.
Mais ce n'est pas l'officiel, celui-ci.
Ou les Laurencins, les premiers.
Il y en a eu toute une bande.
Et ils sont gravés, d'ailleurs, dans le centre du village. On a vu qu'il y a des endroits où ils sont vraiment sculptés dans la pierre, quoi. Enfin,
tout à fait.
Il y a le blason des chevaliers de Jérusalem, qui sont là en haut, qui sont gravés dans la pierre. Et autrement, il y a donc le blason des Bénéons sur l'église.
Voilà. Le blason qui est sur la façade, la nouvelle façade de l'église, qui est donc désorienté. Le lieu saint est dirigé vers l'ouest et non pas vers l'est, contrairement à toutes les églises de France. Le blason de l'église est, semble-t-il, un blason de comte. Alors, parce que c'est un problème de boule, il a dit boule, peu importe. Et c'est quelque chose de prétentieux parce que le seigneur de Rivry n'a jamais été comte, c'était un baron. Et c'était un baron qui a été un baron pendant une époque féodal. Et puis après, ça a été une seigneurie qui était sous la dépendance de personnes qui appartenaient à la bourgeoisie, enfin, les échevins, voilà.
En tout cas, il y a le choix de blason à Rivry. On a cru comprendre que le blason officiel aujourd'hui était celui avec les deux petites étoiles, le petit trait argenté et les trois étoiles.
Et les deux levrettes.
Voilà. Levrette, c'est
celui qui est employé, quoi. Voilà. Sur le tampon d'Amérique, je crois que c'est celui-ci, il me semble.
C'est ce qu'on a lu. Vous viendrez voir, évidemment, tous ces blasons à Rivry et puis vous choisirez celui qui vous plaît le plus, même si l'officiel est bien présent. Alors, en 2017, Rivry a été classée petite cité de caractère. Nous, on aime beaucoup ça parce que je sais qu'à Saint-Jean-Toula, ils cherchent à devenir aussi petite cité de caractère. J'imagine que c'est un long parcours.
La petite cité de caractère, c'est récent, comme ça.
C'est récent,
5-6 ans, oui. À peine. C'était la première fois que les petites cités de caractère, Rivry était une petite cité de caractère. C'est une association bretonne, les petites cités de caractère, fait d'anciens élus, d'autres personnalités.
Dans le Rhône, on était la seule.
Et dans le Rhône, il en était la seule.
Oui, et maintenant, il y a Ternant qui en fait partie.
Voilà.
Notre hypothèse, c'est de dire que c'est lié justement à cette particularité de Rivry, qui est vraiment dans une ambiance très, très plongeons dans le passé.
Mais comment c'est venu
Surtout, comment c'est resté
Comment, bah, c'est resté dans son jus, pour ainsi dire.
C'est ça, c'est voilà. Ce qu'on voulait dire, on voulait vous suggérer. Est-ce que vous avez des...
Non, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les années 70, il y a pas mal de vestiges qui ont été détruits. C'est vraiment dommage, mais bon, dans les années 70, c'était le modernisme, le béton, les villas, et ainsi de suite, et dont qui a été détruite les prisons et les oubliettes qui ont été détruites que, quand j'étais gamin, moi, je me rappelle bien. Quoi. Bon, ça a tout été détruit, d'accord. C'est dommage.
D'accord.
Mais autrement, non, pourquoi c'est resté comme ça dans son jus ? Parce que ça convenait à tout le monde.
Oui.
Tout simplement.
Oui. Oui,
c'est et bon. Il y avait les bâtiments de France qui ont quand même veillé sur le patrimoine, qui ne se fasse pas n'importe quoi.
La sensation qu'on a ici, ce qu'on a aussi lu, c'est que c'est un point de passage qui est assez stratégique, où il y a eu beaucoup d'enjeux, donc liés au fait que il y a eu l'aspect forteresse aussi, l'aspect.
C'était sur le passage du Viennois au Forez.
C'est ça.
Donc les gens passaient là, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce. Cette forteresse de fait.
Voilà, cette forteresse qui, du fait de cette position stratégique, ouais. A été dès le départ assez atypique et peut-être justement avec le temps a dû rester un enjeu un petit peu de stratégique qui fait que c'est resté. Et Béatrix de la Tour du Pin. Elle incarne un épisode de ce qu'on a pu voir qui est cher aux habitants de tout particulièrement de vieilles souches de Rivry. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire qui est assez poignante ?
C'était donc l'épouse de Guillaume de Roussillon, donc, qui est mort en croisade. Et elle a eu une vision qu'il fallait aller à Sainte-Croix-en-Jarret. Et c'est là qu'elle a fondé la chartreuse de Sainte-Croix. On retrouve ça sur le livre de...
Sur le merveilleux livre de Vacher.
De Vacher, là.
Vacher qui a été l'ancien maire, enfin, dont je l'ai dit, mais qui a été également avocat, qui était écrivain et qui était le maire donc, de Rivry.
En ce qui concerne l'histoire de Rivry, elle commence à la fin du Xe siècle. Et donc, jusqu'en 1802, que le château s'est vendu, il y a eu 27 seigneurs qui se sont succédés.
On a l'impression vraiment d'être au Moyen-Âge quand on arrive ici. Et donc, il y a vraiment toute cette histoire, en effet, qu'on peut retrouver sur les livres. On aimerait bien évoquer le nom d'une certaine rue ici, qui s'appelle la rue Morte, qui est une ruelle pourtant bien vivante de Rivry. Alors, pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom, cette rue ?
Eh bien, tout simplement, quand le Rivry a été assiégé en 1590 et envahi, toute la population molle a été massacrée et ils ont fait une fosse commune dans cette rue. D'où le nom rue Morte.
Donc sous cette rue,
sous cette rue, il y aurait des cadavres. Alors par contre, on ne sait pas, on dit que toute la population molle a été massacrée, mais on ne parle pas des enfants et des femmes, ce qu'elles sont devenues.
Ça reste un mystère.
Ça reste un mystère de ce côté-là.
Personne ne le sait.
Non. On cherche dans les archives. Mais...
Et est-ce qu'il y a d'autres noms de rues comme ça où vous pourriez évoquer une histoire comme ça à chaque fois, une petite anecdote ?
Bon, il y a éventuellement la rue du Grand Puy.
Oui.
Parce qu'il y a un puits qui se trouve là, mais bon, mis à part ça, si, il y a une petite anecdote dessus, je pense.
Ah ouais,
faut la dire maintenant.
Ah, si, vas-y.
Donc, il faut être sur place, c'est encore mieux. Ce puits a été creusé en 1496 sous les ordres de Charles de Bron, me semble.
Oui.
Parce qu'il en avait marre que les manants aillent chercher de l'eau aux citernes du château. Et en face de ce puits, il y a le four à pain, le four banal. Donc, les gens, en prenant leur pain, ils prenaient l'eau. Et puis, voilà-t-il qu'un jour, il y a deux jeunes filles qui se sont trouvées toutes les deux en face du puits. Et elles étaient amoureuses, toutes les deux, du même garçon. La première, parce que ce puits a une particularité. Il n'a pas de margelle. Si vous voyez ce que c'est que la margelle d'un puits.
Bien sûr. Oui.
Il n'a pas de margelle. Donc, quand on veut prendre de l'eau, il faut se mettre à genoux par terre. Alors, la première s'est mise à genoux pour prendre de l'eau. Et l'autre, elle l'a poussée dedans. Et terminé.
Alors, c'est une anecdote ou c'est vrai, ça ?
Eh bien, on ne sait pas.
Légende ou vérité ?
À cette époque-là, pousser quelqu'un dans un puits, ce n'était pas...
C'était pas grave.
C'était pas grave. Enfin, pour moi, ce n'était pas grave.
C'était banal, quoi.
Puits banal, d'ailleurs.
Oui, puits banal. Alors là, il y a quoi ? Il y a une vingtaine d'années, le maire de ce temps-là, donc, a dit, on va curer le puits. Pour le nettoyer, pour voir si... On ne sait pas. Eh bien, du puits, ils ont ressorti des cadavres, mais c'était des cadavres de mobilettes. Tout simplement.
Il n'y avait pas la prétendante au fond du trou.
Ben, apparemment non. Ou est-ce qu'ils n'ont pas trop cherché au fond? Mais voilà.
Donc on voit qu'il y a quelques morts, soit noyés, soit enterrés dans les rues.
Alors dans cette rue morte, on ne sait pas le nombre exact. Ils estiment autour de 80 personnes qui ont été enterrées.
D'accord. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est assez partagée avec Saint-Didier aussi. On a Saint-Didier-sur-Rivry, on avait beaucoup parlé de cette période de la fin du 16e qui a été assez traumatisante en fait pour la population et qui explique beaucoup de l'histoire aussi des deux villages.
Justement, à Saint-Didier, vous avez peut-être parlé du lieu-dit Chandolan. Justement, en 1590, quand il y a eu l'invasion, donc tous les gens ont été massacrés, et le sang recoulait jusqu'à Saint-Didier, d'où le nom Chandolan. Alors bon, ça fait un peu gros, mais apparemment, d'après les archives, ce jour-là, il y a eu un gros orage. C'était au mois d'août, il y a eu un gros orage, donc l'eau colorée sang a bien pu couler jusque là-bas.
Et pourquoi Chandolan, du coup?
Alors Chandolan, qui veut dire lieu sinistre, lieu sans intérêt, enfin c'est...
D'accord. Donc il y aurait eu comme une rivière, une rigole, d'eau
et de sang.
C'est vrai que ce moment a vraiment marqué les villages, les deux villages. Et c'est vrai que nous, en tout cas, ça nous a inspiré en partie la chanson qu'on a écrite sur Saint-Didier, parce qu'on avait la sensation que surtout l'église, qui est vraiment très imposante, était comme une résilience ou un rebond, une réaction à cette époque très difficile.
Alors moi, je voudrais quand même juste revenir sur, parce qu'on parle d'église de Saint-Didier, mais est-ce qu'on peut parler de l'église de Rivry? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est très atypique. C'est quoi cette histoire?
Paraît-il, là aussi, c'est en 1682, le nouveau seigneur de Rivry, un Bénéon, qui avait racheté la seigneurie au Debron, peut-être. Rivry a été une seigneurie, et puis Rivry a été la propriété de gens, de bourgeois, d'échevins. Les Bénéons sont des échevins qui venaient de Saint-Symphorien-sur-Coise, je crois. Oui. Donc ils ont racheté ça en 1682 et les seigneurs ont trouvé que les habitants du village, pour aller faire leurs précieuses choses dans l'église, passaient dans le terrain du château, enfin tout à fait près du château. Et ils ont donc proposé de modifier, de désorienter l'église, hein, ce qui leur permettait d'avoir la jouissance plus tranquille de leur propriété.
Et donc c'est de là que je veux en venir, que le blason qui est sur l'église, donc c'est un Grimaud de Bénéon, et c'est lui qui a financé les travaux, mais à une condition, c'est qu'il puisse mettre son blason au-dessus de la porte de l'église.
C'était un sponsor, quoi. Il fallait mettre son logo, quoi.
Voilà, pour ainsi dire. Ça lui a été accordé. Et là, il y a toujours le blason.
Oh, il a payé.
Du moment qu'il a payé les travaux.
Bon, finalement, pourquoi
et
pas.
Et c'est resté dans les Bénéons jusqu'à la vente de la.
Oui,
en 1802, la vente de la propriété par une fille de Bénéons qui s'appelait Madame de Montereau.
Voilà.
Et qui avait fui en Suisse ou ailleurs à l'époque les atrocités de la Révolution. La Révolution qui n'a absolument pas abîmé le château. Les habitants du village révolutionnaire se sont contentés de brûler toutes les archives, tout ce qui était papier, etc. Si bien que le château a été à ce moment-là acheté à Madame de Montereau par quelqu'un qui était de Sainte-Catherine.
Oui, les Niel de Richelieu.
Qui ont racheté le château, puis le château a été partagé en 7 parts.
Dont mes ancêtres qui ont habité. Pendant leur chemin, ils sont habités en 1895, mais on ne sait pas combien de temps, et on ne sait pas où dans le château. Ils n'ont pas laissé de traces. Pas laissé de traces écrites. Hein.
Mais ils ont été des châtelains.
Ils ont été châtelains.
Je voulais juste revenir sur le terme échevin. Hein. On est d'accord, ce sont des magistrats, c'est ça?
Oui, c'est des magistrats sous l'Ancien Régime. C'était des gens qui étaient un peu plus riches ou un peu plus cultivait que les gens habituels et qui avait des fonctions de représentant, pour certains, de représentant du seigneur. Quand le seigneur n'habitait pas là, c'était le bailli, des échevins, etc. À Lyon, il y avait des échevins dans toute la ville. Saint-Symphorien-sur-Coise était également un lieu, une place forte, et les riches devenaient échevins. C'était plutôt les maires et les conseillers municipaux de l'époque.
On a entendu parler d'un tilleul. Quelle est l'histoire de ce bel arbre dont on ne peut, je crois, plus voir que la souche?
C'est Richelieu qui l'a fait planter en 1595. Donc il a vécu jusqu'en...
400 ans.
Oui. Ces 400 ans ont été fêtés en 1995.
On a fêté les 400 ans, oui. Tilleul, et ensuite, il était en partie debout encore. Oui.
Ensuite, il y a eu des branches qui se sont cassées et il a été coupé en 1997, je crois, avant la tempête.
Il y a une branche qui était restée, mais qui était tombée sur le coin du château actuel. Parce que le château actuel, c'est une maison de plaisance, hein, c'est pas le château fort qui existait avant 1590.
Les sous-sols sont d'origine.
Oui.
Si on va voir la maquette, on va dans une cave qui date du XIIe siècle.
En 1590, lorsque les ligueurs de Lyon, menés par le baron Tinchamont, je m'en ai son nom, peu importe, ont envahi Rivry qui, pour la Ligue lyonnaise, et du fait que le baron Camus était protestant, on ne peut pas dire ça, mais était royaliste, voilà. C'est-à-dire il était pour le futur Henri IV, les Lyonnais ont demandé donc au baron Saint-Chamond de venir détruire Rivry, ce qu'ils ont très bien fait, ils ont tout mis à plat. Et les hommes de Rivry ont fui leur citadelle en passant par le chemin des Poternes.
Oui, la porte de la Ruette.
Donc en allant à Saint-Didier.
Et donc ce tilleul, il a été aussi là pour...
Pour symboliser la paix.
Voilà.
C'est ça.
La paix et la Renaissance.
Alors nous, évidemment, on est sensible à tout ce qui est nature. C'est aussi pour ça qu'on est tous dans le pays mornantais. Le patrimoine d'un village, c'est le bâti, bien sûr, mais c'est aussi la nature qui l'entoure. Alors ici, quand même, on a une vue incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent quand on est aux alentours de Rivry? Qu'est-ce qu'on peut voir d'ici?
Disons que comme nous, qui y habitons tout le temps, on ne fait pas trop attention au paysage. Mais comme je dis, dès qu'on regarde, il y a toujours quelque chose à voir. Alors quand on est sur le chemin de ronde, on a le côté béton, la région lyonnaise, et le côté nature, côté pilon. On peut voir les deux. Et au niveau pollution,
oui.
Quand il y a le brouillard, brouillard et marron sur toute la, comme ils appellent la vallée de la chimie. Puis quand on remonte sur Rive-du-Gé, c'est beaucoup plus clair.
C'est frappant. Hein.
Ouais. Oui, c'est net.
Les jours, justement, net, il fait très beau, on le voit. On a une table d'orientation aussi qui a été, je crois, qui est pas... Oui, qui commence à avoir un certain âge, mais qui a été installée.
Alors effectivement, de là, on voit le Pila. Quand il fait beau, on voit le Mont Blanc. Et quand on voit le Mont Blanc, il faut bien savoir que ça signifie que le lendemain, il va pleuvoir.
C'était comme ça.
C'était.
Non, c'est terminé.
Il ne pleut plus. Hein.
Alors, les dictons...
Ils ont fait démentir le dicton.
Ah oui, tous les dictons, ils sont plus d'actualité.
Il faut les mettre à jour.
Ah oui, mais même, je crois tout. Que même en les remettant à jour...
Ça ne marcherait pas. C'est trop changeant.
Ça change trop.
Et justement, alors, en parlant climat, qu'est-ce qui reste d'agriculture?
Il y a des sièges d'exploitation. Il y en a une, peut-être deux.
Il y a quand même deux élevages dans deux riveries. L'élevage de brouillé pour les moutons, de les brebis. Et puis, il y a toujours un élevage de vaches, mais le maquignon plutôt.
Non, mais c'est des vaches allaitantes. C'est-à-dire les vaches font leur veau. Elles élèvent leur veau, et ensuite le veau est vendu à 6 mois.
Aux Italiens. Les Italiens les font grossir, et puis ça nous revient après. Oh, j'ai entendu ça à Saint-Laurent-de-Chamousset.
Ah oui, bah, je peux que... Parce que oui, son père était maquignon. Son père, son oncle, était maquignon.
Il y a deux familles de Rivry qui existent encore, et qui ont leur exploitation sur Rivry.
C'est vrai qu'à une époque, il y avait donc beaucoup d'exploitations.
Oui, là, il y en avait à tous les coins de rue, c'est le cas de dire.
Hein. Ouais.
Mais quand j'étais gamin, moi, donc il y a 50 ans, il y en avait entre 15 et 20. Alors des exploitations qui avaient quoi, 3 vaches, 4 vaches, donc ça montait jusqu'à 8 ou 10, quoi. Et puis 2-3 moutons, 2-3 chèvres.
Dans un autre temps, au début du XXe siècle, on a lu qu'il y avait plusieurs épiceries, plusieurs alors on a mais... lu cabaret pour dire les, ouais. les bars, c'est assez rigolo. Oui. En fait, c'est aussi pour dire que les gens qui habitaient à Rivry travaillaient à Rivry, et j'imagine qu'il y avait une espèce d'économie circulaire.
Voilà, oui, oui. C'était auto-consommé déjà, et puis bon, les gens restaient sur le... Mais bon, à Rivry, alors, je ne sais pas quel an, jusqu'à quand ça existait, il y avait quatre foires dans l'année et deux marchés par semaine. Mais ça, c'était, je ne sais pas, 17e, 18e siècle, peut-être.
Oui. Il y avait des notaires, deux notaires à la Révolution. Rivry, de ce fait, était un bourg qui n'était pas uniquement peuplé d'artisans, d'agriculteurs, etc. C'était un bourg qui avait une histoire assez riche, importante, d'où la présence de deux notaires autour de 1800.
Et puis, il y a eu le propriétaire de la première chocolaterie.
Pupier. Chocolat Pupier.
La famille Pupier, qui est originaire de Saint-Étienne, a fait construire. C'est Madame Pupier. Il y avait encore son mari à elle.
Je ne sais plus.
Enfin, ils ont fait construire une maison contemporaine à l'époque, autour de 1932-33.
Ouais, c'était avant la guerre, là.
Ouais, entre les deux guerres, 1932, qui a été habité par Madame Pupier-mère pendant la guerre. Son fils Charles, non,
mais ça, Marcel.
Marcel. Elle avait deux fils et deux filles. Son fils Marcel a été maire du village, surtout en 1943, parce que les maires étaient nommés par le régime de Vichy. Donc voilà, ça situe un peu le Monsieur Pupier-Marcel. Madame Pupier fournissait du chocolat aux habitants, quand même, il faut reconnaître.
Je pense.
Il avait cette possibilité. Et puis la maison Pupier, dans les années 55-56, a été vendue. Je pense après le décès de Madame Pupier, a été revendue. Et ce sont des Savoyards qui ont racheté la maison et qui en ont fait une maison de retraite, de repos. Oui, c'est ça, le poste chirurgical même. C'est-à-dire que la grande maison a été séparée, les pièces ont été séparées, etc. Moi, j'y habite, c'est pour ça que je le défie un peu. Et il y avait quand même dans la maison la chambre 29. Je n'ai pas trouvé la chambre 1, mais la chambre 29, si vraiment c'était... Bon, il y avait 29, je pense qu'il avait trouvé une plaque 29, il avait fichu.
Heureusement qu'il ne l'avait pas mise à l'envers, c'est 92.
Oui, c'est 92.
Et oui. Puis cette maison de repos, de santé, etc., que l'on appelait, comment on appelait ça ici
La clinique.
La clinique de Rivry. Oui. Elle a fait faillite, elle a disparu des circulations dans les années 80, là, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de répondre à la qualité d'accueil pour des post-opératoires. Et des états, etc. Je connais quelqu'un seulement qui était kinésithérapeute de Mornant et qui venait là et qui m'expliquait que les brancardiers portaient les malades d'un étage à l'autre pour les descendre dans le jardin. Et pour cela, il y en avait un grand qui était donc en haut et un petit qui était en bas, ou bien l'inverse.
Il fallait
pour porter les malades dans la salle au rez-de-chaussée, qui était la salle de rééducation kinésithérapie.
Alors c'est assez impressionnant d'entendre et de savoir qu'il y avait une clinique à Rivry.
Voilà.
Oui. Des notaires, des grands industriels. Ouais. Oui, parce que c'était le fief, en fait, Rivry.
Oui, c'était le fief.
Ouais,
et ensuite, il y a eu des chirurgiens. Il y en avait deux, donc mon ancêtre. Plus l'autre, j'ai son nom dans les archives, il était deux mètres chirurgiens.
Rivry, c'est vraiment...
Il y avait tout. Hein.
Enfin, oui, il y avait tout, finalement. Avait tout. Non, parce ouais. qu'on a aussi lu qu'il y avait énormément de cordonniers.
Des cordonniers, il y en a eu jusqu'à 28.
Pourquoi autant? Comme les cloutiers, peut-être, à Saint-Didier.
Oui, il y avait
voilà,
les cloutiers
oui, c'était,
aussi.
Oui. Ben, donc, c'était déjà des familles. Donc, le père était cordonnier, les enfants, s'il y avait deux, trois ou quatre garçons, ben, ça faisait... On est la suite, quoi.
Les cordonniers et les cloutiers, c'est la proximité avec la ville de Rives-de-Gier. Hein, les pots venait de Rive-de-Gier, pourquoi, j'en sais rien, peut-être de Saint-Étienne, peu importe. Mais il est classique de dire que les cordonniers du pays allaient chercher leur peau en descendant par Saint, par le Beaudançon, pratiquement, ils tombaient sur Évry, ils récupéraient leur peau, et puis ils travaillaient leur peau pour faire des godasses qui, une semaine après, étaient redescendues à Rive-de-Gier. Et là, il y avait sur Saint-Didier un bistrot qui se trouvait sur le passage au pont de la Boutonne. Alors, la Boutonne, c'est un lieu qui était habité, mais c'est surtout un lieu actuellement où passait la ligne de chemin de fer qui n'a jamais été terminée. Vous connaissez ça. Et ce lieu de la Boutonne, habituellement, quand ils remontaient, quand certains cordonniers remontaient après avoir vendu leurs chaussures bien faites, ils dépensaient une partie de leurs sous. C'est la Boutonne.
Ouais.
Hein,
oui, oui.
Pas tout. Non, pas tout.
Les gens s'arrêtaient.
On ne sait pas comment ils repartaient, voilà. Mais ça s'arrêtait. Mais...
Ils avaient à grimper encore. Hein.
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'activité de Rivry d'un ancien temps, d'avant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve à Rivry? Parce que quand on arrive à Rivry, on vient aussi soit en tant que touriste, soit en tant que randonneur. Enfin, je veux dire, il y a des raisons de venir à Rivry. On ne vient pas à Rivry par hasard. Qu'est-ce qu'on peut faire à Rivry déjà pour se restaurer? Enfin, il y a peu d'habitants, mais...
Il y a le restaurant, donc, les Trois Archers, et le bistrot. Ce bistrot fait des pots de pain, les journaux et le tabac.
Donc vous êtes presque autonome.
Si on veut.
Et toi, tu fais la viande?
Je fais la viande, mais vendue sur commande.
D'accord.
Parce qu'on a un point de vente à la Tour de Salvani.
Ok.
Donc ça part tout là-bas, mais si quelqu'un veut
il peut,
un morceau de lapin ou un morceau... Oui, parce que bon, on fait des moutons, mais on fait des lapins aussi.
D'accord.
Un élevage de...
C'est plus rare, ça.
C'est rare, oui, c'est rare.
D'accord.
En fait, on venait à Rivry pour la Picorail, qui a été le restaurant, le restaurant rural de Rivry, qui était où l'on mangeait des omelettes, du saucisson, du fromage, etc. C'est ça, hein?
C'est ça.
Et on venait de loin, de Taluyer, c'est pas très loin, vous me direz, mais enfin, on montait à Rivry pour aller manger à la Picorail.
Oui, les gens viennent à Rivry parce que c'est joli et il y a une belle vue. Ça, c'est,
les, bah,
gens,
c'est
les gens, comme on dit, comme ils disent, on fait le tour du chemin de ronde.
Ouais.
C'est-à-dire tout le tour du village. C'est surtout, oui. Surtout pour ça.
Ça, le chemin de ronde, c'est une spécificité
du
village.
Oui.
On fait le tour du chemin de ronde, il y a 1,1 km tranquillement.
Si on va voir la maquette, eh ben, on s'y retrouve. C'est l'avantage que quand on fait une visite, bon, il y a ça, ça et ça, et on dit aux gens, mais on va aller voir la maquette et vous allez vous y retrouver. Mais les gens sont contents. Ils se retrouvent. Ah oui, c'est ça, ça, ça.
En tout cas, ce qui est génial à Rivry, c'est que ça a beau être un tout petit village avec peu d'habitants, en effet, on peut se restaurer, on peut passer vraiment un très bon moment, on peut aller boire un coup. Juste à côté, il y a une galerie d'art, là, Patatrar, c'est ça?
Oui.
Patatrar.
Alors, l'histoire de Patatrar, c'est l'histoire de la poste. On a eu pendant... J'ai connu une postière qui habitait Sainte-Catherine, qui habite toujours Sainte-Catherine,
à part
des longues... Donc il y avait une poste, comme dans tous les villages de France, et les postes ont disparu, ont fait disparaître la fonction de postière, et le local appartenant à la mairie, je ne me trompe pas, une association s'est créée pour transformer le local en galerie de peinture. Alors ce mot est très valorisant, c'est un petit lieu d'exposition qui est géré par une association donc, de Patatrar. Pourquoi Patatrar? Parce qu'il reste encore au-dessus PTT, donc Patatrar, ce nom-là, et qui propose à ses adhérents d'exposer des œuvres d'art les week-ends, voilà.
Eh ben, on en apprend, on ne le savait pas, et on trouve ça beau et mignon d'avoir utilisé l'existant pour élargir le champ des possibles. On adore ça. Et on ne peut pas parler de Rivry sans parler des Rivériades. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Déjà, pourquoi? Quand est-ce que c'est né et pourquoi?
Alors, les premières Rivériades datent de 1973. Bon, tout le monde à ce moment-là participait aux Rivériades. Tout le village était... Que maintenant, c'est limité au niveau gens qui s'occupent de
l'organisation. Il y a eu un temps mort dans les Rivériades.
Et puis il y a eu un arrêt
15-20 ans.
Oui, à peu près. Ouais. Parce qu'il y a eu donc en 73, et je crois qu'il y en avait eu plusieurs années de suite.
C'est possible.
Qu'après, il y a eu à l'arrêt, et puis ça a recommencé en 2003 que ça...
Pourquoi c'est né ? Qu'est-ce qui a impulsé la première édition ? Vous vous rappelez de ça ?
C'est le fait que Rivry ait été un bourg fortifié, était voilà, une seigneurie, une baronnie. Et on a essayé de refaire vivre le village sur un mode les barons du XVIe siècle.
On avait juste lu, nous aussi, que c'était au tout début pour fêter le 7e centenaire justement de la fondation de la chartreuse de Saint-Cran-en-Jarret par Béatrix. On avait lu ça, donc ça reste à vérifier, puisqu'on on va mettre la référence de tous les ouvrages.
Alors, on parle des Rivériades, mais c'est quoi ? Ça se présente comment ?
On interdit aux voitures de venir dans le village, bien sûr. Eh bien, on se déguise, on fait un peu la fête. La municipalité invite des troupes de troubadours, voilà. On boit de la bière, on mange, on est déguisé. Patatras est ouvert, bien sûr. Et puis, il y a des chanteurs. Il y a toute une animation culturelle et historique qui nous prend beaucoup de temps pour la préparer et qui nous dure donc une journée, un dimanche.
Mais en tout cas, on est bien d'accord qu'on est dans l'époque médiévale.
Voilà. Ah oui. Très, très
donc
médiévale.
Ça me fait penser un peu, évidemment, à la fête à l'ancienne à Saint-Jean-Toulat, où on est sur la tout 1900. Fait, tout et c'est un peu le même état d'esprit, j'imagine. Hein, quelque chose qui se fait tous les
c'est
ans.
C'est tout à fait oui. Ça.
Alors, à Rivry, on y fait tous les deux ans.
D'accord.
Ouais.
En tout cas, on invite les gens à venir et puis à sortir les déguisements pour venir faire les troubadours. Nous, on viendra faire les troubadours aussi, un petit peu à Rivry. Voilà.
André, tout le long de cette causerie, tu nous as parlé d'une maquette. Cette maquette, comment on fait pour la voir ? Elle est où ? Et comment elle est née ? Dis-nous
alors,
un petit peu tout ça.
Elle est née, c'est Pierre Vernet et son beau-frère qui ont eu l'idée de faire cette maquette. Donc Pierre Vernet a fait des recherches dans les archives communales, privées et départementales. Et c'est son beau-frère qui était, je ne peux pas dire qu'il était maquettiste, mais un peu... et qui a fait la maquette, qui a commencé la maquette. Et puis, elle est tombée dans l'oubli pendant peut-être bien d'abord une vingtaine d'années, parce qu'elle a été commencée début des années 80. Et donc, ensuite, elle est tombée dans l'oubli, et c'est, il y a une dizaine d'années.
Que tu t'y attelles ?
Non, qu'elle est ressortie. Je ne me rappelais même plus qu'il y avait une maquette, moi. Ouais. Et c'est donc ma femme qui me dit, on a ressorti la maquette de Rivry. La maquette de Rivry, qu'est-ce que c'est que ça ? Si, ben, tu te rappelles bien. Non. Elle était reluquée au fond d'un couloir. Donc on a commencé à la rénover parce que dans le donjon, il y avait des souris qui avaient fait leur nid. Donc on a envoyé promener tout ça. On a fait un peu, on a refait les reliefs, refait des maisons. On l'a relookée. Et puis de là, je me suis dit, mais non, c'est toi qui m'as dit, ben maintenant il faut la continuer.
Oui.
Alors je dis, non, mais c'est pas possible. Ah, si, il faut la continuer. Alors je dis, oui, bon, puis d'autres personnes me l'ont dit, ils m'ont dit, il faut continuer cette maquette. Et puis,
tu n'es pas encore arrivé ici. Hein.
Comment ?
Tu n'es pas encore arrivé ici, je veux dire, dans ta maquette.
Non.
Tu as encore du chemin à faire.
J'ai encore du chemin à faire. Je me suis donné 3 ans pour la faire.
OK.
Et de là, en réfléchissant bien, je dis, oui, j'ai tenté le coup. Et donc, ça fait 1 an que j'y travaille. J'ai fini le tour du chemin de ronde. J'ai refait quelques chemins, un peu le relief, la montée du Chambarreau, la porte de la Bazette, la maison de chez Verdoni, et puis la maison de Nicolas. Et puis là, donc, je suis sur la place du marché.
On peut la voir où et comment on prend rendez-vous ?
Il faut prendre rendez-vous à la mairie.
OK.
À la mairie, et puis bon, ben, on fixe un jour, une heure.
Et elle est où ?
Elle est dans les sous-sols du château. Donc une pièce, une corde qui date du XIIe siècle.
Voûtée.
Donc il y a l'ambiance en plus.
Oui, vraiment. Donc on ne peut pas l'exposer comme ça en permanence parce que bon, il y a des gamins qui viennent, qui touchent à tout. Comme me disait quelqu'un, oh non, mais il n'y a pas que les gamins, il y a les adultes aussi qui touchent. Mais c'est vrai que bon.
Oui.
Alors c'est pour ça. Il faut qu'elle soit sous surveillance. Et donc on la fait visiter. Donc, la journée du patrimoine, pas de problème, c'est ouverte la journée. Donc, pour les Rivériades, ça va être pareil.
Et cette salle voûtée, je crois qu'elle a été déblayée par des gens de la municipalité à une époque. Elle était plus ou moins enterrée, il y avait du gravat, il y avait des...
C'était quand Voûtée était maire. Voilà. D'ailleurs, il y a sa plaque.
Ah oui.
Sans, le, sans ouais. le Marcel Noguier. Oui, c'est pas Voutet, c'est Noguier.
C'est Noguier.
C'est vrai, il y a la plaque.
Qui a été, l'autre. Parce qu'en fait, elle était pleine de terre.
Elle
de...
était. Ben, il y a la cave qui est à côté, qui est identique, qui est restée dans son jus depuis le Moyen Âge. Et donc, on nous la porte et on regarde. Et ça a été recreusé, et c'est pour ça qu'il faut être sur place pour y voir. Il y a tout le tour qui sert de banc, pour ainsi dire, qui a été caché en boiserie, parce que derrière c'est du béton. Parce qu'ils ont creusé, mais ils se sont trouvés en dessous du niveau du soubassement des voûtes, donc il fallait bien y protéger.
Alors, si vous voulez, le temps d'une soirée, d'un week-end, revivre un âge de transition au Moyen Âge, beaucoup moins sombre que l'image d'Épinal souvent partagée. Si vous voulez rêver aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, si vous voulez fuir les villes inhumaines pour vivre un moment suspendu dans le temps autour d'un bon repas, eh bien, il faut faire escale à Riverie, tout simplement. Vous serez bien accueillis comme nous l'avons été par André et Franck. Messieurs, nous pourrions parler encore très longtemps de Riverie, évidemment, mais il est temps de nous quitter et nous aimerions pour cela... vous laissez le mot de la fin.
En venir à Riverie, oui, mais il faut se garer sur les parkings. On a 3 parkings. Hein. Pas se garer n'importe où.
Et d'autre part, si on vient avec son chien, eh ben, on ramasse la petite crotte que le chien fait.
Cette causerie a été réalisée par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la commune de Riverie et la communauté de communes du Pays Mornantais.